Sirène et blablabla en direct du Longchamp Palace ce soir. L'émission mensuelle consacrée aux arts dans l'espace public proposée par Radio Grenouille et Lieu Public, Centre National de Création des Arts de la Rue. Une émission en écho à Sirène et Midinette à retrouver le premier mercredi du mois à Midinette sur le parvis de l'Opéra de Marseille. Une performance aujourd'hui réalisée par Caroline Sélic d'Artonic et la C4 Team, c'était le Golden Parachute. Ce soir, on parle de relations au public. Comment une histoire commune se construit entre une structure culturelle et le public de son territoire. Comment décloisonner le théâtre, mélanger les publics et bousculer les habitudes et les pratiques des uns et des autres. Question de médiation, question des formes de la création, question de la pérennité surtout. Comment construire une histoire qui dure. On en parlera avec nos invités. Elisa Schmidt de Lieu Public, Anaïs Lemaignan du Théâtre du Merlan, Géraldine Garnier de la Gare Franche et Pascal Messaoudi, journaliste réalisateur son qui nous présentera son guichet des doléances culturelles, guichet qu'il a baladé dans les quartiers nord où opèrent toutes ces structures culturelles, donc à Saint-André, la Busserine, Saint-Antoine et le Plan d'Aou. Pour animer ce plateau avec moi, Xavier Thomas.
Salut Célia.
Et à la technique, Sébastien Gély. Bonjour à tous. Alors, quand on se pose la question des relations entre les structures culturelles, donc théâtre, centre de danse, compagnie, et leur public, on peut s'interroger sur la forme, ou plutôt les formes, que peuvent emprunter l'art pour toucher ce public et peut-être même l'élargir. Alors, est-ce qu'un petit spectacle, par exemple, permet d'instaurer un rapport plus direct, plus intime entre le public et les artistes? Est-ce que dans une représentation sous forme de repas, par exemple, donc là, tout le monde mange, on est dans un terrain connu, l'art devient plus accessible? Entre producteur et diffuseur, comment est pensée cette question de la forme? Donc là, je me tourne vers Elisa. À Lieu Public, vous jouez justement avec la forme courte pendant le festival Small is Beautiful, qui en est à sa deuxième édition, c'était en octobre dernier. Est-ce que tu peux nous parler de ce festival?
Oui, bonsoir. Small is Beautiful est né, comme vous le disiez, en 2007. Suite à une envie d'une part de travailler sur le territoire où se trouve le public, donc Saint-André, un quartier à l'autre bout de la ville, dans les quartiers nord, un quartier à une échelle petite, une architecture plutôt de petites maisons, et donc l'idée c'était de vouloir faire un festival de petite forme dans ce quartier, à l'image du quartier, dans cette idée de contexte.
Petite forme, mais grand public, c'est aussi l'idée de toucher un plus grand public.
Oui, c'est aussi l'idée de toucher un plus grand public. Avant tout, c'est de travailler donc avec les publics du quartier en lui-même, qui n'a pas forcément l'habitude de devoir s'implanter d'un événement sur son quartier. Et puis, en effet, faire découvrir peut-être cet espace, ce quartier, à un autre public qui va venir du centre-ville de Marseille, ou même d'ailleurs des communes alentours.
À l'instant, Célia parlait d'intimité dans cette relation entre le spectacle et les publics. Effectivement, dans Small is Beautiful, il y a une recherche de cette forme d'intimité, des formes peut-être plus accessibles. Et quand je dis accessibles, ça ne veut pas dire qu'elles sont plus simples. Ça veut dire qu'on peut y accéder. Ça veut dire aussi qu'on peut peut-être, au travers de ces formes, accéder à des endroits inconnus de la ville, à des interstices du tissu urbain. C'est aussi ça l'idée?
Tout à fait. On a l'exemple de ce qu'on avait présenté en 2007, Marenstrack, qui était une performance dans une cour abandonnée que personne connaissait, qui se trouve juste derrière la bibliothèque de Saint-André, où on a découvert un espace complètement nouveau avec des grands arbres, et on était réellement dans un moment intime, complètement, oui.
Et est-ce que vous êtes attentif dans la sélection des formes qui sont proposées dans cette démarche Small is Beautiful, à ce que justement ces formes correspondent à une recherche de nouveaux publics?
Oui, aussi. Donc, selon les formes proposées, on va évidemment étudier l'espace où on va le présenter. Et puis, on va aussi essayer de donc, faire découvrir de nouveaux espaces. Pardon. Et on a présenté à l'association Saint-André Loisirs et Culture, qui est une association qui est très fréquentée par les jeunes du quartier, notamment du quartier des Tuileries, qui est en bas de Saint-André. Donc du coup, les gens de ce quartier sont venus jusqu'à voir cette forme parce qu'ils connaissaient déjà cet espace. Et ça permet de créer aussi un mélange de population et de public.
Et j'imagine qu'il y a un dialogue aussi avec la population de ce quartier, peut-être pour présenter en amont, on parlera tout à l'heure de la médiation et du travail en amont, mais pour leur présenter la programmation de Small is Beautiful, pour en parler avec eux.
Oui, bien sûr, on est là. De toute façon, on est vraiment dans ce quartier, donc on est présent toute l'année. Et avant l'arrivée de Small is Beautiful, on essaye d'être d'autant plus présent et d'aller vers les habitants, vers les commerçants, vers toutes les personnes qui sont représentatives du quartier aussi, qui font bouger le quartier, pour leur expliquer ce qui va se passer et essayer de les impliquer aussi dans les propositions qu'il va y avoir.
Au fond, c'est une manière de renouveler la notion de proximité. On entrevoyait autrefois la proximité comme étant un lieu culturel et puis il s'occupe du territoire qui est autour, dans un certain rayon, dans un certain périmètre. Sauf que là, vous brouillez un petit peu les cartes et que vous amenez les publics à bouger. Il s'agit non seulement de les émouvoir, ces spectateurs, mais il s'agit aussi de les mouvoir, de les faire bouger depuis les quartiers centraux, par exemple.
Oui, il s'agit de les faire mouvoir, en effet, jusqu'aux quartiers centraux, depuis les quartiers centraux. Tout dépend après aussi des propositions qu'on a. Par exemple, je vois avec ce qu'on a proposé avec le banquet cette année, qui était donc un grand banquet donc sur la boulevard Salducci au cœur de Saint-André. On a eu tout type de population qui est venue, et comme c'était aussi présenté par une compagnie très connue, Ilotopie, qui était connue donc ici dans la région, de nombreuses personnes sont venues du centre-ville et ont eu l'information directement au centre-ville, bien sûr.
Alors un projet bien sûr local, particulièrement localisé, dans des quartiers, dans des endroits spécifiques de ces quartiers, mais il ne faudrait pas non plus oublier que Small is Beautiful, c'est aussi un projet européen, donc ça brouille là aussi un petit peu les cartes entre le local et le global, c'est un projet local, Small is Beautiful.
Oui, on pourrait peut-être parler d'un projet local en effet. Donc l'idée, comme je le disais au départ, c'était donc présenter un festival donc, dans notre quartier. Et l'idée européenne, c'est qu'un peu l'Europe, les artistes et les compagnies puissent s'inviter à Marseille et dans un quartier qui est peu connu des non-marseillais, voire peu connu peut-être de certains marseillais, en effet. Et de mélanger aussi les genres entre de la grande forme peut-être en centre-ville et de la petite forme au niveau de Saint-André.
Alors, petite forme, peut-être, mais ça n'empêche pas que parfois, elle puisse avoir une certaine dimension de monumentalité, en tout cas de répondre à une architecture qui n'est pas toujours une architecture de petite maison, comme tu le décrivais. Mmh. Ça peut aussi être, par exemple, sur les escaliers de Saint-Charles, avec une pièce qui s'appelait Run for Love, de Béton Tank et Ézéchiel. Et là, pour le coup, on était dans une petite forme, certes, mais petite forme, grand espace, on peut dire.
Oui, l'idée aussi donc, du choix des formes de spectacle, c'est de s'adapter à son contexte, à son environnement, à un espace. Et donc les escaliers de la gare Saint-Charles, c'est vrai que c'est un peu un dada de Pierre Sauvageau à lieu public, de travailler sur ces escaliers. Et quand on a eu donc, cette proposition de Run for Love, là on s'est dit, oui, c'est les escaliers de la gare Saint-Charles et on va monter ça sur cet espace-là.
Une expérience de travailler sur les formes pour aller à la recherche de peut-être de nouveaux publics, ou en tout cas la recherche de travailler différemment avec les publics, des expériences qui sont menées aussi avec d'autres structures culturelles à Marseille, notamment le Merlan. Anaïs, peut-être tu pourrais nous parler un peu des expériences que mène le Merlan dans ce registre un peu décalé par rapport au théâtre ou à la danse, qui sont les deux grands domaines de travail du Merlan. Peut-être par exemple tu pourrais nous parler d'Olivier Darnay et de son travail autour du miel béton.
Oui, je voulais juste d'abord rebondir. C'est vrai que nous, l'histoire de le vagabondage, c'était quelque chose d'assez fort qui a été mené par le Merlan pendant 3 années, qui se poursuit d'ailleurs aujourd'hui, et qui était un peu une manière, par rapport à cette question aussi du renouvellement des publics, qui est un peu au cœur des interrogations qu'on peut avoir, d'aller sur le territoire de l'autre et d'être aussi, et qui s'est donc révélé être un vecteur très fédérateur. Et qui a vraiment permis à la scène nationale de renouer avec du public et des publics qui d'ailleurs sont venus jusqu'à nous suivre aujourd'hui, alors qu'on a réintégré nos murs et que quand même l'essentiel de la programmation se fait dans ces murs-là. Le projet d'Olivier Darnay, il tombait à point nommé quand il nous a été proposé, donc en 2007. C'était le moment où la salle de spectacle allait réouvrir. Et c'était pour nous une manière...
Rappelle juste en deux mots que c'était fabriquer du miel et faire goûter ce miel à la population.
Exactement. L'apiculture, c'est un peu... C'est comme ça d'ailleurs que Olivier définit son travail. C'est avec les abeilles, c'est une manière à la fois métaphorique de raconter une ville, c'est-à-dire quel est son nectar, de quoi elle est faite, de quoi elle est constituée, comment elle raconte à travers le miel. Dans un pot de miel, on trouve énormément de nectars différents qui sont le produit des graines. Et les graines, c'est le résultat du voyage des hommes. Donc c'était une manière très, très juste, nous semblait-il, à ce moment-là, de dire que même si on réintégrait nos murs, on avait aussi envie de continuer à travailler à l'échelle d'une ville entière et non pas simplement d'être dans le risque fort qui toujours nous guette dans ces quartiers-là, d'être dans une forme un peu de stigmatisation et de se refermer, de recréer de l'entre-soi aussi en s'enfermant nous-mêmes.
Une autre approche des publics donc, et qui cette fois ne passe pas forcément par une forme spectaculaire. Il y a d'autres formes que celle du spectacle pour aller à la rencontre de ces publics. Géraldine Garnier, le Cosmos Collège et la Gare Franche aussi s'inscrivent dans une démarche de réflexion autour des publics, de redéfinition des formes. Et redéfinir les formes, c'est aussi redéfinir le territoire, l'observer de manière différente. Et c'est quelque chose que tu as pu pratiquer notamment avec le bruit du Frigo, un collectif bordelais, pour redécouvrir les richesses, je pourrais dire, naturelles de ce territoire. Naturel, évidemment, on est en pleine ville et la nature n'y est pas forcément flagrante, mais en tout cas, une nature certes sauvage, mais une nature bien présente.
Oui, donc au départ, Bruit du Frigo, on les avait interpellés sur la question des circulations, des frontières, des passages. Qu'est-ce qui fait passage depuis la cité jusqu'au théâtre? Qu'est-ce qui fait barrière surtout? Et donc leur premier diagnostic, c'était que c'était un territoire en friche, composé de mauvaises herbes et de l'analogie qu'on pouvait faire de ces mauvaises herbes avec ce quartier, avec ses habitants, et surtout que ces mauvaises herbes avaient de nombreuses vertus culinaires, médicinales, etc. Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure de Bruit du Frigo à la Gare Franche, puisque au cours de balades, de cueillettes, de repas d'état-major, d'ateliers d'urbanisme utopique, de la question qui posait la question de l'imaginaire dans le quartier, ils ont réinterrogé le quartier et réinvesti finalement la sphère de l'imaginaire au Plan Daou, qui est un quartier en pleine réhabilitation depuis plus de 25 ans.
On va dans quelques instants aborder un autre élément de discussion, celle de la médiation, un élément évidemment incontournable dans ce rapport au public. Mais tout de suite, je voudrais qu'on écoute un extrait de réclame. Alors Célia, tu es l'auteur de ce petit sujet. Quelques mots pour nous le présenter.
Oui, alors là, c'est un petit extrait en fait, d'une création donc, de la chef de chœur Brigitte Sirla. En mai dernier, c'était rue Saint-Ferréol. Il y avait 200 chanteurs dans la rue, entre les commerçants, les passants. Donc c'est un exemple d'un rapport au public particulier, puisque là, on attrape le public pendant qu'il fait son shopping, quoi. On écoute.
À la reprise, chanter.
Dans un monde. Le vrai est un moment du faux. Dans un monde réellement renversé, le vrai est un moment dans un monde réellement renversé.
Le vrai est un moment renversé
du faux.
Dans un monde.
Le vrai. Du faux.
Pourquoi on a dit que le vrai est un
monde dans un monde réellement transformé.
Vrai.
Trois fois chacun.
Le futur, vous l'aimez comment?
Le futur,
Le futur, vous l'aimez comment?
Alors, on va passer à un deuxième aspect de ce rapport au public, la médiation. On a parfois l'impression d'être entouré de médiateurs, on ne compte plus les formations de médiation culturelle dans les universités. Et pourtant, est-ce que la médiation est bien là, elle ? C'est pas si sûr. Alors, ce mot « valise » qui est employé un peu à toutes les sauces, il faut peut-être revenir dessus et puis le revisiter pour être sûr qu'il fasse bien sens. Sur le site internet du Théâtre du Merlan, par exemple, on peut lire « Le pari est de transformer le théâtre en une maison ouverte et commune à tous, de favoriser un vivre ensemble entre les artistes, les habitants et l'équipe du Merlan.
Anaïs Lemaignan, à propos du Merlan, justement, on va parler de médiation. La médiation, c'est en amont des spectacles, c'est en aval des spectacles, c'est parfois pendant le spectacle, on en parlera aussi tout à l'heure. C'est d'abord créer du lien social et préparer le public à la rencontre des artistes. Et un bon exemple de ça, c'est ce que vous êtes en train de préparer en ce moment à propos d'une thématique à venir, une thématique sur le thème de l'amour et un travail avec l'association Sheba, justement, qui est en cours.
Oui, j'avais envie de commencer par parler de cet exemple-là, même si sur la question de la médiation, c'est quand même une question infiniment complexe, notamment la question du médiateur culturel. Moi, je me suis beaucoup portée un peu en faux par rapport à ça, parce que je pense que la base de nos, enfin, ce sur quoi vraiment repose notre travail, c'est vraiment essayer d'aller à la rencontre de l'autre, de trouver les territoires communs, y compris dans les thématiques qu'on peut travailler ensemble, être dans l'écoute, être vraiment dans la relation à l'autre. Et c'est vraiment, ça repose là-dessus. Et ça, je pense que ça s'apprend pas. C'est aussi des choses qui appartiennent à chacun. Et la justesse de ça, elle est juste individuelle aussi. Donc voilà. Après, évidemment, on a des petits trucs quand même et on met en place des protocoles. Vous ne vous inquiétez pas.
C'est pas complètement improvisé.
C'est pas complètement improvisé, évidemment. Et donc, là, par exemple, effectivement, le travail que nous a proposé Ramona Badescu, qui est une jeune femme qui écrit beaucoup pour la jeunesse, hein, qui est auteur, nous paraissait extrêmement exemplaire dans la démarche qu'on essaye de mener en direction aussi du territoire. C'est de s'associer avec le comité Mamega, qui est un comité qui participe à œuvrer contre l'illettrisme, et également l'association de femmes Sheba, à la construction en commun d'un chœur, donc piloté par Ramona, qui est l'instigatrice et l'artiste associée au projet. Et donc là, l'idée, c'était à la fois d'être dans quelque chose de participatif, qui est aussi un petit peu la marque de fabrique Merlan. C'est de mobiliser aussi bien des enfants que des femmes qui vont construire dans un atelier de confection, de couture, ce cœur. Et ensuite aussi, on était vraiment dans cette question de l'échange, puisque le cœur et l'amour, voilà, c'est l'échange.
L'idée, si je comprends bien, c'est pas tellement d'expliquer à l'avance aux spectateurs ce qu'ils vont voir et de les préparer, mais c'est plutôt de faire en sorte qu'au moment où ils vont rencontrer les artistes, ce soit des spectateurs actifs, activés.
Oui, ça c'est l'idéal. Par ailleurs, on mène aussi, et effectivement, pour chaque spectacle ou chaque thématique qu'on aborde, un travail vraiment de décryptage avec nos partenaires qui sont nombreux, dans une relation qui se construit aussi sur la durée. Tout ça, c'est plein de composantes qui sont importantes. Et effectivement, le décryptage de l'œuvre, ou en tout cas de la thématique qu'elle aborde, comment elle peut être reçue chez l'autre et comment on la reçoit nous. C'est-à-dire qu'on essaye aussi d'être dans une position toujours un petit peu d'humilité, parce que je pense que voilà, c'est un peu ce qui fonde aussi notre travail.
Alors cette médiation, elle est parfois opérée par des associations avec lesquelles vous travaillez, mais elle est parfois opérée directement par les artistes. Alors c'est pas systématique, il faut bien sûr qu'il y ait des artistes qui soient disposés à ça, qui aient une certaine générosité, on va dire, pour se lancer dans cette opération-là, mais parfois c'est le cas. Tu en as quelques exemples au Merlan, Anaïs ?
Oui, il y a plein de modalités grâce auxquelles on a pu construire des choses un peu de cette nature-là. Par exemple, je me souviens d'une intuition qu'on a eue qui s'est révélée être très juste. On accueillait donc la compagnie Membros, qui était une compagnie brésilienne au moment de la réouverture du théâtre, qui se trouve avait une petite forme qui se joue en extérieur. Et finalement, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, plutôt que nous, aller s'inviter dans le quartier en arrivant comme ça avec nos flyers, notre son, tout ce qu'on sait très bien faire, nous, professionnels de la culture, on arrive comme ça au pied d'une tour et on s'installe. On s'est dit, tiens, on pourrait travailler avec l'ADAP, qui est un partenaire, l'ADAP 13, un partenaire ancien du Merlan, sur un groupe d'adolescents à qui on a proposé de construire avec nous, de nous donner les clés de leur quartier, de nous faire visiter les lieux, de décrypter avec nous cette fiche technique, les nécessités techniques qui s'imposaient pour l'accueil de ce spectacle. Et on a travaillé tout le long avec eux pendant 3 mois pour que finalement ce ne soit pas tant nous qui nous étions invités dans le quartier, même si ça peut partir comme ça d'une intention un peu généreuse, mais au contraire c'était eux qui nous ont invités dans leur quartier. Et du coup ça a été d'une force et ça a été extraordinaire.
Alors la médiation, c'est souvent en amont du spectacle, mais c'est aussi pendant le spectacle, où l'on se rend compte d'ailleurs à cette occasion que c'est un travail de médiation qui est souvent un travail difficile, dont les résultats ne sont jamais acquis, et pour lesquels tout professionnel de la culture que l'on soit, il faut toujours rester extrêmement modeste. Témoin, par exemple, l'incident qui est survenu le 21 février dernier, lors du spectacle d'Alain Buffard. Peut-être quelques mots pour rétablir un peu certaines proportions, Anaïs.
Oui, ce qui s'est passé ce soir-là, juste peut-être en préambule dire que 99,9% de nos représentations se passent bien au Merlan et qu'il y a toujours à la fois des adolescents, des vieux, des jeunes, des moins vieux, de tous les quartiers, que ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille de manière à ce que chaque fois on compose un peu la salle. C'est aussi un peu notre travail de manière à ce qu'il y ait, de la rencontre possible. Et voilà. Donc,
en deux mots, tu racontes
En deux mots, le fait il est assez simple, il peut sembler assez anecdotique. Il se trouve qu'effectivement, il y a eu ce soir-là, on a accueilli un groupe de jeunes spectateurs qui étaient un peu bruyants, qui ont perturbé le bon déroulement du spectacle. Que pour des raisons tout à fait compréhensibles, le chorégraphe est parti de manière assez rapide, a décidé d'interrompre la représentation en leur demandant assez sèchement aux spectateurs de quitter la salle. Et ça a été.
Pas à tous les spectateurs, hein, ces spectateurs,
à ces spectateurs, bien sûr, aux 7-8 adolescents qui étaient un petit peu agités ce soir-là.
Je te propose peut-être pour rebondir sur cette question qu'on écoute les artistes. Les interprètes de ce spectacle d'Alain Buffard, en l'occurrence c'était Claudia Triozzi et Vera Montero, que j'ai rencontré le lendemain de cette représentation un peu troublée, et en leur posant la question justement de peut-être quelles difficultés elles pouvaient ressentir dans le rapport entre la danse contemporaine et les adolescents. On l'écoute. Not a Love Song, c'est une comédie musicale quand même, une comédie, donc c'est drôle, mais il faut savoir rire au bon moment, ce qui n'était pas forcément le cas le 21 février au Merlan. Comment est-ce que vous expliquez que la danse contemporaine ait parfois du mal à s'adresser à un large public, à captiver notamment les jeunes ou les ados ?
Vera Montero.
Je crois que c'est vrai que dans plusieurs champs de l'art contemporain, danse, art visuel, musique, théâtre, quoi que ce soit, si on n'a pas un petit peu suivi cette histoire, oui, peut-être on va avoir un petit peu de problème à accéder à des objets en ce moment qui sont une réponse à cette histoire et qui sont une continuation de cette histoire de l'art moderne et contemporain, comme on aura du mal à suivre ce qui se passe en physique quantique si on a raté un peu la physique d'Einstein et avant, etc., etc. Il faut rentrer un peu dans les matières, se rendre compte de certaines choses qui se sont passées, et ça je crois que c'est le rôle de plusieurs, soit des théâtres, soit des écoles, et des gens en général, s'ils ont un petit peu envie d'accéder à ces choses, aussi de faire un petit peu leur propre chemin, de curiosité, de voir un peu ce qui s'est passé.
Claudia Triozzi.
Oui, moi je partage aussi ce point de vue. Et comme Vera a parlé d'école, moi je pense que, voilà, que c'est important de continuer à avoir des interventions, disons, artistiques liées à la danse, comme au théâtre ou à la musique, dans les écoles. Qu'il ne faut pas abandonner ça, que c'est très important. Moi, de temps en temps, j'ai l'occasion de pouvoir le pratiquer, même dans des collèges cette année. Et je trouve que voilà, c'est toujours une expérience intéressante parce qu'on a une vision, quand même, on a une façon d'amener les matériaux qui est moins codée, qui est moins dans des programmes, en fait. On est dans des programmes un peu particuliers, on va dire, mais qui sont quand même, je pense, intéressants. Et donc, il faut continuer à garder ouvertes les écoles d'art, et à garder vraiment des activités artistiques dans les écoles. Ça, c'est nécessaire. Il ne faut pas quitter ça.
Vera Montero et Claudia Triozzi, interprètes du spectacle d'Alain Buffard, Anaïs Lemaignan. Je rappelle que tu travailles pour le théâtre du Merlan. Alors peut-être deux choses. La première, c'est la danse ou le spectacle, c'est comme la physique. Il faut apprendre des bases. Qu'est-ce que tu en penses ?
Oui, je pense que ce serait un petit peu un leurre de dire que nos théâtres sont aujourd'hui des lieux ouverts où il ne faudrait aucun code pour y accéder. Et je pense que d'ailleurs, samedi soir, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on se rend bien compte que la question de l'exclusion, et c'est un processus extrêmement complexe, que, y compris les éducateurs avec lesquels on travaille, personne ne maîtrise complètement. Hein, donc, et c'est véritablement ce qui s'est passé. C'est, je pense qu'on a été dépassé par des questions sociétales qui sont beaucoup plus larges et beaucoup plus... fort. Donc voilà, oui, effectivement, les théâtres ne sont pas ces lieux ouverts là. Heureusement qu'on fait ce travail là pour permettre une ouverture, en tout cas à ceux qui le souhaitent et ceux chez qui on arrive à susciter ce désir là. Par contre, effectivement, sur ce qu'elle dit, je pense qu'il y a effectivement plusieurs choses. Il y a d'une part, l'année dernière, on a mené un projet en danse contemporaine avec Hélène Dattler, qui est architecte scénographe, qui a travaillé avec le collège Édouard Manet, qui est aussi un de nos voisins, avec un groupe de jeunes évidemment très éloignés de la pratique de la danse contemporaine ou de la question de la danse, du corps, du rapport du corps et à l'espace. Et ça a été un travail qui s'est inscrit sur la durée, encore une fois, c'est toujours, on y en revient, sur une année. Et ce qu'elle a réussi à déplacer chez eux et à travailler avec eux, c'est, on avait l'impression que véritablement le film qu'elle a monté, c'était comme, on assistait à une véritable performance, c'était extraordinaire.
Claudia Evera mettait l'accent sur le fait que cette médiation, elle ne doit pas uniquement être opérée par les institutions culturelles, mais aussi... prendre place et toute sa place à l'école, dans les collèges, dans les lycées, dans les structures d'éducation. Au fond, elles mettent un peu le doigt sur la carence aujourd'hui en matière d'éducation artistique.
Oui, c'est un des aspects, parce qu'après, il y a aussi ce qu'on évoquait tout à l'heure, il y a aussi la question de la césure très forte aussi entre pratique amateur, pratique professionnelle, le fait que l'on ait instauré, c'est comme ça, historiquement en France, des lieux culturels avec un grand C qui sont assez coupés du reste du monde, hein, et je pense que là, on y est confronté de manière extrêmement violente, comme samedi dernier, enfin, il y a 15 jours, quand on vit des choses comme ça, et ça nous renvoie juste chacun... dans nos limites, parce que voilà, on en a. Enfin, c'est pas si c'était un endroit où on avait un espèce de protocole qu'on appliquerait, ou voilà, c'est une prise de risque permanente. Moi, je l'assume complètement. On a une équipe qui est absolument remarquable d'attachés aux relations publiques au Merlan. Je salue particulièrement le travail de Bertrand, Zora et Patricia. Je pense que ça tient aussi bien de la magie. Tu parlais du quatrième mur, et le quatrième mur, c'est les spectateurs. Et on est dans du vivant, et ces risques-là, on continuera à les prendre.
Géraldine, Elisa, peut-être, qu'est-ce que ça vous évoque, cette idée-là de la prise de risque ?
Elle est quotidienne dans notre métier, la prise de risque. C'est, c'est l'essence même de notre travail. Quand on s'installe, en tous les cas, sur ces quartiers, on va forcément au-devant de rencontres, de gens qui n'ont pas forcément les mêmes codes. C'est le propre de notre métier, de créer les conditions de la rencontre et puis parfois de se rater et de prendre ce risque-là, comme disait Anaïs. Et voilà, on fait ça aussi pour prendre ces risques-là et on les prend tous les jours.
Un risque au fond très banal. Donc, Elisa ?
Oui, non, j'avais juste envie d'ajouter que, comme disait Géraldine, c'est vrai que dans les quartiers qui n'ont pas l'habitude de recevoir des spectacles... Il y a une certaine prise de risque, mais il y a autant de prise de risque qu'en centre-ville de Marseille ou dans d'autres villes, quand on va s'installer comme ça sur l'espace public, sur une grande place, et qu'on va voir les commerçants, les habitants, les différents usagers, et qu'on va leur expliquer qu'on va faire un spectacle, comment ça va se passer, qu'il va y avoir des problèmes de stationnement, etc. Et c'est aussi, un gros préalable à gérer aussi en amont.
Géraldine.
Juste pour ajouter, je pense que c'est absolument pas l'unique question de la médiation ou de la relation publique qui se joue là-dedans. C'est la question tout entière d'équipe et de l'accueil. Nous, on joue cette carte-là à la Gare Franche. Quand on organise nos bons moments à la Gare Franche, c'est toute l'équipe qui se mobilise dans l'accueil du public. Et ça ne tient pas à une, deux personnes ou à un service. C'est vraiment une politique d'établissement.
Anaïs.
Pareil, pour toujours d'aller de rebond, sur cette question aussi, nous, ça nous a posé énormément de questions qu'on a remis au travail, du coup, qu'on met au travail au quotidien.
Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on est là-bas. Enfin, je pense que les gens de l'équipe qui sont là-bas, c'est pas complètement anecdotique de choisir de postuler au Merlon. C'est aussi les questions de comment une scène nationale, hein, quel choix a été fait à un moment donné à une certaine époque, qui n'est plus la même aussi. Hein, il y a 30 ans de décalage entre l'implantation de cet espace, cet équipement culturel à la fin des années 70 et aujourd'hui. 30 ans, c'est énorme parce que 30 ans, c'est un quartier qui change.
Tu veux dire que c'est le temps que les politiques culturelles disparaissent ?
On est aussi dans ce temps-là où aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est de faire de la diffusion, de la rentabilité, de faire de la billetterie. On est dans une espèce de quadrature du cercle assez infernale aussi, hein, par exemple sur la question très, très clairement tarifaire. Dire c'est une bataille de tous les jours pour réussir à négocier des tarifs bas, très bas, qui sont déjà bas au Merlon, mais qui ne sont pas suffisamment bas pour que les publics auxquels on s'adresse du quartier puissent y accéder. Juste, c'est important quand même de le savoir, parce que du coup, il y a une partie de l'argent que nous, on réinjecte pour pouvoir permettre aux plus là, ou à ceux qui le souhaitent, de venir au théâtre.
La médiation, donc, on l'aura compris, c'est tout sauf l'encadrement du public, avec tout le sens militaire qu'on pourrait donner à ce terme, mais c'est co-construire ensemble... une programmation, un spectacle, une rencontre, un moment de bonheur. Évidemment, c'est toujours aussi des petits moments de risque. Je vous propose maintenant qu'on prenne le temps d'un petit moment de musique. On va écouter Mpong Umwana. C'est un artiste qui vient du Nigeria et ça s'appelle justement Take Your Time. Alors on prend un petit peu de temps.
Et blablabla depuis le Longchamp Palace, on poursuit cette émission consacrée à la relation au public. Comment une histoire commune se construit-elle entre une structure culturelle et le public de son territoire ? Donc on parlait de médiation, mais cette médiation, elle est intéressante si elle s'inscrit dans la durée. Changer les habitudes, c'est un travail de longue haleine. Et puis, qui n'est pas exempt de paradoxe. Alors, par exemple, dans le monde de la culture, comment on crée du permanent, en tout cas du pérenne, dans cette société de l'éphémère, et puis dans un milieu qui est finalement peuplé de précaires.
Mais sur, donc sur cette question de la pérennité, on va peut-être pouvoir parler avec Géraldine de l'exemple du projet des jardins, la Gare Franche.
Oui. Donc le projet des jardins de la Gare Franche, au départ, c'est un projet de rencontre et de théâtre, en réalité, avec des femmes du quartier qui faisaient partie d'un groupe, du groupe alphabétisation du centre social, et qui sont venues chez nous pour voir un spectacle qui s'appelait La visite guidée, qui était mis en scène par Vladislav Snorko, et qui était une façon originale, artistique, de venir rentrer dans le lieu, faire un premier pas dans la Gare Franche. Et suite à ce spectacle, on a rencontré, les femmes ont rencontré les artistes, et puis on a senti ce souhait de faire du théâtre, mais que ça ne s'appelle pas du théâtre, et puis éventuellement de faire une représentation publique, mais qu'il n'y ait pas de public, et de revoir le film, mais qu'il n'y ait pas d'image. Donc on a rapidement été dans le bain de cette complexité, de ce rapport à l'image, au théâtre, à la culture, à la démocratisation de la culture et à la culture élitiste et le théâtre, c'est pas pour moi. Et donc on leur a proposé de faire de la cuisine ensemble. Et en réalité, très vite de la cuisine, on est passé à la chorégraphie. Et pendant ces rencontres chorégraphiques orchestrées par Vilma Lévy, une comédienne du Cosmos Collège, et Nelly Fleischer de Radio Grenouille, des femmes nous ont dit, mais donnez-nous une petite parcelle de terre, vous ne savez pas jardiner votre magnifique espace, et on va y planter 2-3 aromates. Et c'est comme ça que les jardins ont démarré à la Gare Franche. Et de 30 mètres carrés, on est passé à 50 sur cultiver collectivement une parcelle de terre. Puis des hommes ont rejoint, puis des parcelles individuelles. Et nous, ça nous a permis de réfléchir avec les gens sur comment on crée des usages collectifs dans un espace privé, finalement, comment on crée des circulations, comment les jardins permettent de travailler en porosité avec le quartier et de se trouver comme ça une plateforme commune d'échange, de rencontre avec notre voisinage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les jardins s'étendent. C'est devenu pour nous un outil très important de relations publiques, puisque ce sont nos spectateurs associés, en quelque sorte les jardiniers. C'est eux qui préparent les pots bénévolement les soirs de spectacle, qui les servent, qui l'été prennent en charge le gardiennage, le petit entretien. Enfin voilà, on a mis en place comme ça un système un peu informel de troc qui, à mon avis, est la base peut-être d'un modèle d'économie alternative qui est un modèle lui-même de relations publiques.
Au fond, ce que tu dis, Géraldine, c'est que pour poser cette réflexion avec les publics, avec les habitants d'un lieu, d'un territoire, eh bien, il faut prendre son temps. Et le jardin est un formidable espace pour justement pouvoir prendre son temps, pour ne pas être comme le font d'autres théâtres dans la construction d'une saison, mais là, dans l'observation des 4 saisons de l'année, et de laisser le temps aux choses de pousser et aux idées de venir.
Oui, et Jean-Luc Brisson le dirait beaucoup mieux que moi, puisqu'il parle de cette capacité que le jardin, et notamment les jardins ratés, ont de créer des liens.
Alors Jean-Luc Brisson, c'est un artiste que vous accueillez en résidence, et précisément, c'est une résidence de longue durée.
Voilà, c'est un peu la particularité de la Gare Franche, puisqu'on n'est pas un lieu de diffusion, mais bien de production et de création, et qu'on reçoit les artistes en résidence sur des temps assez longs. Bruit du frigo, c'était 1 an. Jean-Luc Brisson est chez nous depuis 18 mois. Donc deux gestations, le temps de rencontrer de nombreuses personnes sur le quartier et de parler d'évaporation motrice d'art plastique, d'art contemporain, de jardin, les pieds dans la terre avec les gens directement, en créant des jardins aquatiques au cœur du jardin potager, etc., etc.
Alors justement, Jean-Luc Brisson, dont tu parles à l'instant, artiste en résidence à la Gare Franche, il lui a fallu du temps pour rencontrer cette population. Il n'a pas voulu que ça se passe en un claquement de doigts. Et il a surtout insisté sur une chose qui me paraît très importante dans cette idée de la pérennité de la relation, c'est sur la notion de confiance. Et il a une manière un peu particulière d'avoir établi la confiance avec les habitants du Plan Dao.
En fait, Jean-Luc, il est parti de l'idée de... Il s'est interrogé sur la résidence maison, et de comment il vivait la maison de la Gare Franche, et comment il partait sur Plan Daou, comme on part au jardin, et ils partaient y faire des siestes, ils partaient se balader, se promener, un verre d'eau à la main. Et voilà, c'est ça son point de départ de l'écriture de son projet « Les Tentations à Saint-Antoine ».
Faire la sieste au milieu d'une cité dont parfois certains à Marseille prétendent que c'est une cité un peu difficile, bah, c'est la première pierre, on pourrait dire, de la confiance établie avec des gens, avec des habitants. Et on comprend mieux après pourquoi est-ce qu'ils sont, ces habitants, si réactifs et si en phase avec les propositions artistiques et les jardins que leur propose Jean-Luc Brisson, où ils se reconnaissent, ils reconnaissent leur cité et leur territoire immédiatement dedans.
Surtout quand Jean-Luc Brisson parle de Plan d'Août comme un bout de paradis, finalement, ça nous semble assez décalé et presque provocateur. Si ce n'est que raconté par Jean-Luc Brisson au long cours d'une résidence de 18 mois, ça prend tout son sens.
Alors, à propos de jardin, on va peut-être aussi évoquer un autre projet mené cette fois-ci par le Merlan, Anaïs, un projet en collaboration avec le Centre social Agora. Décidément, les jardins, c'est un espace dans lequel on peut facilement établir cette relation dans la durée avec des spectateurs.
Ben, c'est un imaginaire commun. C'est aussi pour ça, je pense, que c'est si fort et qu'on construit beaucoup de jardins et des structures culturelles travaillent aussi là-dessus. Je pense que c'est aussi simple que ça. Après, c'est vrai que juste par rapport à cette relation qu'on a au territoire et le projet d'Olivier Darnay et celui qu'on mène avec sa fille et donc le Centre social de l'Agora cette année, c'était aussi pour nous, je pense que c'est là où on a aussi une responsabilité, c'est aussi de travailler sur la déstigmatisation de ces quartiers-là. Et je me souviens très bien, moi, la première fois que je suis venue, j'ai rencontré Anne-Marie Tagawa de la DAP 13, qui est une collaboratrice précieuse, et qui m'a parlé de ce quartier de manière évidemment très différente que l'image que moi je pouvais en avoir. Je vous rappelle juste, pour ceux qui ne connaissent pas le Merlan, que nous sommes sous un centre commercial entouré de cités. On n'est même pas dans un quartier comme... C'est même pas le charme de certains quartiers marseillais, que peut avoir Saint-André ou d'autres. Donc,
tu veux dire qu'il n'y a pas un noyau villageois, quoi.
Il n'y a pas un noyau villageois. Le noyau, l'endroit où les gens se retrouvent, c'est au centre commercial, c'est au carrefour, ou dans la galerie marchande. Donc on est vraiment sur des endroits très particuliers, à vivre, même pour nous, quand on vient de l'extérieur. Et juste pour finir, elle me parlait vraiment de la richesse de ce territoire-là. Et ce qu'a révélé, et c'est là où effectivement on participe d'une certaine manière à porter et à poser un autre regard sur le territoire, parce qu'on y va, parce qu'on y emmènera des gens, des spectateurs, des gens qui viennent d'ailleurs. C'est tout simplement à travers cette idée que c'est aussi plein de richesses. Et la ressource naturelle, sauvage, à l'état sauvage, puisque dans ces quartiers qui étaient anciennement maraîchers, elle est à l'état sauvage, et c'est le travail que mène sa fille cette année, c'est une manière de révéler, de dire autrement que ce territoire-là, il est aussi riche de tout ça, de sa jeunesse, de tous ces gens qui y vivent, et voilà.
Géraldine ?
Et c'est vrai qu'on est face à des gens qui ont des savoirs ethnobotaniques très, très riches et très forts. Et du coup, c'est aussi leur capacité à eux de générer de l'activité de jardinage sur laquelle nous, on rebondit, parce que c'est aussi... ça interroge pas mal d'artistes actuellement. Voilà.
Elisa, peut-être une remarque, un rebond sur cette idée de la pérennité, du temps qu'il faut pour établir une relation avec les publics.
Oui, comme on le disait depuis le début, en effet, il faut du temps, prendre le temps. Dans notre cas, à Saint-André, depuis que lieu public est implanté dans le quartier, un certain nombre de sorties d'ateliers, surtout, ont eu lieu donc depuis plus d'une dizaine d'années. La plupart du temps, sur la place de l'église de Saint-André, parce qu'on se trouve juste à côté. Et c'est aussi une manière de créer du lien, de voir aussi ce qu'on fait à l'intérieur de cet atelier qui est fermé, puisque c'est un lieu de travail. C'est vrai qu'on ouvre peu cet espace, mais parce qu'il n'y a pas vraiment lieu non plus. Et j'avais envie de parler, par exemple, de ce qui s'est passé dernièrement sur Small is Beautiful, sur l'édition 2008, avec la compagnie Ex Voto Collectif, qui a fait tout un travail sur la mémoire. C'était un travail de parcours sonore, où ils avaient fait des enregistrements de sons dans le quartier de Saint-André. Et du coup, ils se sont baladés comme ça pendant 3 semaines, juste avant Small is Beautiful, à capter du son, et puis du coup à parler un peu avec les habitants, essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé dans ce quartier, la mémoire des Tuileries, enfin tout ce que véhicule ce quartier de Saint-André. Et par ces enregistrements et par leur proposition ensuite qui a eu lieu pendant le festival Small is Beautiful, ça a créé un lien, un super lien, parce que les habitants sont venus du coup jusqu'à la bibliothèque de Saint-André pour suivre la compagnie, suivre leurs propositions, et ils se sont régalés.
Redéfinir cette relation publique, c'est donc prendre du temps, on l'a vu, mais c'est aussi sûrement obtenir les moyens nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre cela. Anaïs, tu évoquais cette question des moyens nécessaires comme étant évidemment une question cruciale.
Oui, enfin, effectivement...
Tout le monde la partage, mais tu en es le porte-voix.
Voilà, non, c'était juste peut-être de le rappeler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas complètement évacuer, dire que les choses seraient simples. Enfin, la question des moyens ne résout pas tout. En tout cas, elle y participe. Et la question aussi d'une réflexion commune, c'est-à-dire que nous, toutes ces questions-là, on est traversées par tout ce qu'on vit là-bas. Et moi, j'aimerais aussi qu'on soit plus accompagnés. C'est-à-dire que c'est très facile, quand ça se passe mal, de jeter la pierre. Moi, je préférais qu'on travaille ensemble en amont. Et d'ailleurs, ça a été le sens de cette démarche qu'on a eue au sein de l'outil commun, qui était on est 5 structures culturelles implantées dans les quartiers nord. On est confronté à un certain nombre de questions. On a des expériences magnifiques, très belles. On a des expériences plus difficiles. Mettons-les ensemble en partage, parce que ce n'est pas parce qu'on est une scène nationale, qu'on est une structure associative qui fait de la médiation avec de l'atelier d'artistes ou un... Peu importe, nous on n'est pas sur ces registres-là, on est comment on pourrait mettre ensemble ces questions, parce qu'à plusieurs, peut-être qu'on est un peu plus fort pour essayer et de parler aux politiques et à l'institutionnel des problèmes qu'on rencontre, et également qu'est-ce qu'on peut essayer de modéliser ensemble.
Se mettre ensemble, modéliser ensemble, c'est précisément le propos d'un dispositif qui s'appelle Outils communs et qui réunit un certain nombre de ces structures culturelles situées dans les quartiers nord de Marseille, avec un projet notamment, un premier projet initial qui est intitulé 888 degrés nord, et évidemment Grenouille est un peu au cœur de ce projet, première invitée de ce dispositif, avec du 26 mars au 16 avril, si je ne dis pas de bêtises, un certain nombre au 16 avril, un certain nombre de rendez-vous publics dans ces quartiers, dont notamment un projet qui s'intitule le guichet des doléances culturelles et que Pascal Messaoudi va nous présenter. Salut Pascal.
Salut Xavier. Le guichet des doléances culturelles, c'est donc un projet qui s'inscrit dans ce projet de résidence de Grenouille dans l'outil commun, qui consistait un peu à s'installer, à installer une boîte en bois, un peu un guichet en bois, proche de ces structures, de la gare Franche, du Merlan, de lieux publics, de Les Arts à Part, qui ne sont pas là aujourd'hui, aux Égalades, et d'aller capter un peu des petites paroles des habitants qui sont pas loin, qui sont là, des habitants ou des gens de passage, puisque ça tourne beaucoup, il y a beaucoup de circulation finalement dans les quartiers nord. Et donc c'était un dispositif donc où il y a un enregistrement. Moi je suis dans une petite boîte, on interpelle pour moi des gens dans la rue, les gens viennent et discutent avec moi sur les rapports qu'ils entretiennent avec la culture. Donc sans évoquer directement la présence de ces structures qui sont pas loin en général, donc voir un peu quel rapport ils entretiennent avec la culture, leurs sorties éventuelles, ou s'ils ne sortent pas, pourquoi, leur rapport aux artistes, à l'art. Et évidemment, on était dans la période où Marseille venait d'être nommée capitale européenne de la culture, donc je les questionne aussi là-dessus. Et je crois qu'on va écouter un petit extrait, c'est un...
Ben oui, pour conclure cette émission, ça paraît assez logique de donner la parole au public, puisqu'on parle voilà. De la relation au public, on ne peut quand même pas les squeezer de cette discussion. Ce que tu nous donnes à entendre, c'est...
Là, c'était le premier guichet en fait qu'on organisait, qui se passait aux Égalades, sur le plateau des Égalades. Voilà, donc quelques minutes.
Vous avez déjà été à des spectacles de...
Non, pas du tout.
Jamais ?
Non, non.
Et pourquoi ?
Je ne peux pas payer... C'est trop cher.
C'est trop cher.
Je suis au Rémi, j'ai des enfants en charge. Parce que je peux pas sortir. Je suis limité.
Et eux, ils y vont voir des spectacles ?
Comment ?
Les enfants, ils vont voir des spectacles avec l'école.
À part l'école, oui, c'est tout. Ouais.
L'école, des fois, elle les emmène ou il y a des animations ?
Oui, bien sûr. De temps en temps. Mais pas souvent, une fois, deux fois par an, par exemple.
Je suis déjà allée avec ma mère voir un spectacle de Noël.
C'était quoi ? Tu me le racontes ?
C'était Petit Papa Noël et on chantait. et qu'il y avait un théâtre.
C'était ici, aux Égalades ?
Non, c'était à... Ah bah...
À Marseille.
Ouais, un théâtre, c'était à Marseille.
Ouais, il n'y a jamais rien ici.
Oui, c'est
nul.
C'est endormi.
Il y a bien des choses.
Voilà, il y a juste. En bas, il y a juste à la deuxième cité, il y a juste la kermesse des fois. Mais ici, au plateau, il n'y a jamais rien eu. C'est la première fois que ça arrive.
C'est vrai ?
Oui, en 13 ans, c'est la première fois que ça arrive en tout
et
cas.
Et petit à petit, vous connaissez ?
Oui.
Vous y allez ?
Oui.
Ça, c'est quelque chose déjà.
Mais il n'y est pas ici.
Des fois, il y a des clubs de genre d'image.
Ouais.
Voilà.
Qu'est-ce que vous faites pour vous amuser vous, le reste du temps ?
On fait du vélo, du ballon, on court.
Ouais. Chasse à l'homme ?
Ouais. On court, touche-touche, on fait plein de trucs.
Ouais. Le footing.
Vous allez à la bibliothèque, au cinéma,
oui,
au théâtre
Surtout le cinéma.
Ouais. Ouais.
On va à plein de campagnes.
Vous avez déjà vu du théâtre de rue ?
Pas spécialement. Mais on peut s'imaginer plein de trucs en entendant ça.
C'est-à-dire ?
On peut s'imaginer plein de trucs, je sais pas.
Comme quoi ?
Comme, je sais pas, le hip-hop, ou du clash en chantant, ou de la bagarre, une baston.
Ah ouais ?
Ouais, c'est un spectacle c'est, ouais. Un petit spectacle, tranquille.
C'est vrai qu'il faut descendre en ville. Voilà, on est obligé d'aller en ville. Hein ? C'est vers l'autre côté, là, il n'y a rien. C'est à partir du 14e, 3e, tout ça, où il y a des belles... De la culture, mais là...
J'adore le théâtre, hein. C'est pas que j'ai été abonnée à la Criée à une époque, mais bon, on est tous pris par notre travail et on manque de temps. Hein.
Qu'est-ce que vous pensez d'un quartier comme les Égalades, culturellement parlant ?
Ben, si ça pouvait se développer pour adoucir les mœurs, je pense que ça serait très très bien, hein, parce qu'il y en a besoin. Hein.
Comment ça ?
Ben, On sent une agressivité quand même latente, toujours prête à exploser. Au quotidien, c'est difficile à vivre. Hein.
Vous pensez que la culture adoucit les mœurs ?
Ah ben oui, on le dit, c'est pas pour rien. Hein. Mais déjà, si ça a occupé les esprits...
Mais il n'y a pas ? Il n'y a rien ?
Je suppose que si vous êtes là, c'est que ça va se faire, non ? Si c'est pas fait, déjà.
Marseille, capitale européenne de la culture.
Donc il va falloir en mettre un coup quand même, hein. Ça m'a étonné qu'on remporte, mais bon, tant mieux.
Ça peut peut-être donner des bonnes choses.
Ça peut donner des idées.
Pour vous, c'est justement dans ce genre de quartier où il faut qu'il se passe des choses.
Ah oui, oui, plus que jamais. Mm. Pour que justement, ils ne se sentent pas exclus du monde de la culture. Je pense que c'est dans nos quartiers, à nous, qu'il faut que ça soit développé bien plus qu'ailleurs.
Il y a pas mal de personnes qui se donnent du mal pour mettre en place toutes sortes d'activités, des services sociaux surtout. Je connais particulièrement la directrice des Égalades, du centre social des Égalades, Léo Lagrange,
l'Olivier Bleu.
Emmanuel. Je vois qu'ils se démènent, je viens de recevoir une invitation d'ailleurs pour les festivités à l'occasion des 20 ans. Du centre social, donc pour le 4 octobre, et j'y participerai comme tous les ans.
Vous faites quoi ?
Je suis commerçante à Saint-Louis.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, des artistes ?
Ben, je pense que les artistes, c'est quelque chose de merveilleux, c'est tout. Les artistes, c'est s'il n'y a pas d'artistes, s'il n'y a pas de vie.
Il n'y a pas de théâtre ici, aux Égalades. Donc les représentations, elles se faisaient à... Je crois que c'était au théâtre Tourski.
Il se passe plus de choses au 14e que chez nous. Hein.
Ah ouais, ici au Castorat, le Castorat, c'est 15e. Hein,
c'est 15e. Ouais. Là-bas, il y a l'espace culturel de Sorine, il y a le théâtre du Merlin. Voilà, il n'y a plus rien. Là.
Il n'y a plus rien ici.
C'était un extrait du guichet des doléances culturelles. Merci Pascal Messaoudi de nous avoir donné ce petit avant-goût de ce qu'on va découvrir avec ce projet 888 degrés sonore. C'est du 25 mars au 16 avril. Toutes les infos seront sur le site de Grenouille, www.grenouille888.org. Merci à tous pour votre participation à cette émission. Merci à Célia Pascaud pour avoir collaboré à l'animer avec moi. Merci à Elisa Schmitt, merci à Géraldine Garnier et merci à Anaïs Lemaignan. Restez à l'écoute de la Grenouille. Dans quelques secondes, à 19h, vous allez pouvoir écouter Bienvenue au Club. Et merci aussi à Sébastien Gély qui en a assuré la réalisation.